Chapitre 25. Gothique décontracte.
Ici la messagerie du Finlandais,
annonça le haut-parleur sous l'écran.
Et le Finlandais n'est pas là. Si vous voulez télécharger, vous connaissez déjà le code. Si vous voulez laisser un message, allez-y.
Bobby regarda fixement l'écran et secoua lentement la tête. La plupart des répondeurs étaient équipés de sous-programmes vidéo cosmétiques destinés à associer l'image de la personne aux paradigmes de beauté les plus répandus, en effaçant les défauts et en modifiant avec subtilité les contours du visage pour les rapprocher des normes statistiques idéales. L'effet du programme cosmétique sur les traits du Finlandais était, de loin, la chose la plus étrange qu'ait jamais vue Bobby, comme si l'on avait arrangé la gueule d'un rongeur mort à coups de maquillage de croque-mort et d'injections de paraffine.
« C'est pas naturel !»
dit Jammer avant de boire un peu de whisky. Bobby acquiesça. Le Finlandais est agoraphobe. Il ne supporte pas de quitter le trou à rats où il se terre. Et il est accro au téléphone. S'il est là, il ne peut pas s'empêcher de répondre. Commence à me dire que cette pétasse a raison. Lucas est mort et il se passe des trucs graves.
La pétasse est déjà au courant, lança Jackie derrière le bar.
Mais bien sûr qu'elle est au courant,
dit Jammer en reposant le verre en plastique et en lissant d'un doigt sa cravate texane.
Elle a parlé à un vaudou dans la matrice, alors elle le sait.
Lucas ne répond pas et Beauvoir non plus. Alors elle a peut-être raison. Bobby tendit le bras et raccrocha le téléphone au moment où le bip commençait à résonner. Jammer avait revêtu de beaux habits, chemise plissée, veste de soirée blanche et pantalon noir aux bandes de satin verticales, que Bobby imagina être sa tenue de travail au club.
« Il n'y a personne !» dit-il alors en regardant Bobby puis Jackie. « Où sont Bog et Sharky ?»«
Que foutent les serveuses ?»«
C'est qui, Bog et Sharky ?» demanda Bobby.
« Les barmaines !»
Ah, ça ne me dit rien qui vaille.
Il se leva de son siège, marcha jusqu'à la porte et tira doucement un des rideaux.
Ils font quoi, là, dehors, ces trous du cul?
Hé, compte!
Ça a l'air ton genre. Viens voir ici.
Bobby quitta sa chaise, inquiet. Il n'avait pas osé raconter à Jackie ou à Jammer que Léon l'avait aperçu parce qu'il ne voulait pas avoir l'air d'un Wilson et rejoignit le propriétaire de la boîte.
Vas-y. « Jette un œil, mais sans te montrer, hein. Ils ont vraiment des gueules de types qui font semblant de ne pas nous surveiller. »
Bobby écarta le rideau d'à peine 1 centimètre et regarda dehors. La foule de clients avait été presque entièrement remplacée par des garçons gothiques à crête noire qui portaient du cuir et des clous. Et étonnamment, par un nombre équivalent de décontractes blonds, vêtus, eux, de chemises en coton de Shinjuku et de mocassins blancs aux boucles dorées.
« Je ne sais pas, » dit Bobby en se tournant vers Jammer. « C'est trop bizarre qu'ils soient ensemble, les décontractés et les gothiques. Ce sont des ennemis naturels, c'est dans leur ADN ou un truc comme ça. »
Il regarda de nouveau.
« Mince, ils doivent être 100. »
Jammer enfonça ses mains dans son pantalon à pince.
« Tu reconnais certains personnellement ?
Il y a des gothiques à qui je parle, ouais. Sauf que j'ai du mal à les différencier. Les décontractés, ils foutent sur la gueule de tous ceux qui ne sont pas comme eux. C'est leur délire. » Mais je me suis fait attaquer par des lobes alors qu'ils sont censés être en paix avec les gothiques. C'est un vrai bordel.
Jammer poussa un soupir.
Alors, j'imagine que tu ne te sens pas d'aller faire un tour dehors pour leur demander ce qu'ils croient faire.
Non, répondit honnêtement Bobby. Carrément pas.
Jammer observa Bobby avec l'air de réfléchir, ce qui ne dit rien qui vaille au jeune homme. Un petit objet dur tomba du haut plafond noir et produisit un fort claquement en heurtant une des tables rondes. Il rebondit jusqu'au tapis, puis roula avant de finir sa course entre les nouvelles bottes de Bobby. Par réflexe, celui-ci se pencha et le ramassa.
Une vieille vis carrée.
Sa tige brunie par la rouille, et sa tête recouverte de peinture au latex d'un noir mat. Il leva les yeux au moment où une autre frappait la table et aperçut Jammer qui, avec une agilité redoutable, sautait par-dessus le bar, près de la machine de crédit universel. Jammer disparut et un léger craquement de velcro se fit entendre. Bobby comprit qu'il s'était emparé de la petite arme automatique qu'il avait vue un peu plus tôt dans la journée. Il regarda autour de lui, mais Jackie n'était plus visible. Une troisième vis vint heurter le formica de la table. Bobby hésita, perturbé, puis il imita Jackie et alla s'abriter en se déplaçant le plus discrètement possible. Il s'accroupit derrière un des panneaux de bois du club.
et regarda la quatrième vis tomber, suivie par une légère pluie de poussière sombre. Un raclement retentit, puis une grille d'acier carré disparut soudain du plafond, retirée dans une sorte de conduit. Il jeta un coup d'œil rapide vers le bar, juste à temps pour voir l'épais frein de bouche sur l'arme de Jammer lorsqu'il se releva. Deux jambes, fines et brunes, pendaient désormais de l'ouverture et un ourlet de tissu shark skin gris était recouvert de poussière. « Attendez !» lança Bobby. « C'est Beauvoir !»«
Bien sûr que c'est Beauvoir !»
dit au-dessus la voix forte que l'écho du conduit rendait caverneuse.
« Vire-moi cette table de là !»
Bobby sortit de l'abri du paravent et tira la table et les chaises sur un côté.
« Attrape !»
dit Beauvoir en laissant pendre un paquet vert olive bien rempli et accroché à une sangle avant de le lâcher. Le poids manqua d'envoyer Bobby au sol.
« Et maintenant, tire-toi de là !»
Beauvoir sortit de la conduite, se tint des deux mains à l'ouverture, puis se laissa tomber.
« Qu'est-il arrivé à l'alarme que j'avais là-haut ? »
demanda Jammer en se relevant derrière le bar, la petite mitrailleuse à la main.
« Elle est là !»
répondit Beauvoir en jetant une courte bande grise de résine phénolique entourée d'une longueur de câble noir sur le tapis. « Il se trouve que je n'avais pas d'autre choix pour entrer ici sans me faire voir de ce tas de petits enculés. Quelqu'un leur a visiblement filé le plan de la boîte, mais cet accès leur a échappé.
« Comment es-tu monté sur le toit ?»
demanda Jackie en sortant de derrière un paravent.
« N'y suis pas monté !»
expliqua Beauvoir en replaçant son épaisse monture en plastique sur son nez.
« J'ai lancé un câble de monomol depuis les cheminées d'à côté, puis j'ai glissé sur une tige de céramique. »
Ses courts cheveux crépus étaient recouverts de suie. Il la regarda avec solennité.
« Tu es au courant ?»
dit-il.
« Oui, Legba et Papa Ogou, dans la matrice. Je me suis connecté avec Bobby sur la bécane de Jammer.
Ils ont fait exploser Harmet sur l'autoroute du New Jersey, sans doute avec le même lance-roquettes que pour la mère de Bobby.
Qui ?»«
Je n'en suis pas encore sûr. » dit Beauvoir en s'agenouillant près du paquet et en ouvrant les fermetures plastiques détachables. « Mais je commence à avoir une idée. Quand j'ai appris que Lucas s'était fait avoir, je poursuivais les lobes qui ont piqué la bécane de Bobby. C'était sans doute un hasard. Ils faisaient leur truc habituel, mais ces deux lobes se retrouvent désormais avec notre brise-glace. C'était prometteur puisque les lobes sont des bisous pour certains et qu'ils font des affaires avec deux par jour. Alors, deux par jour et moi, sommes partis faire la tournée des popotes, voir ce qu'on pouvait trouver. » Et on a découvert que dalle. Sauf que pendant qu'on était avec ce trou du cul du nom d'Alix, deuxième adjoint du chef de guerre ou je ne sais quoi, il a reçu un appel de son collègue qui, d'après deux par jour, est un gothique de Barrytown, un certain Raymond. Il vidait le paquet en parlant, disposant des armes, des outils, des munitions, des rouleaux de câbles. Raymond avait super envie de tchatcher, mais Alix ne voulait pas trop le faire devant nous. « Désolé, messieurs, il s'agit d'affaires qui ne concernent que les chefs de guerre, » qu'il a dit, ce blaireau. Du coup, nous nous sommes tirés super poliment et tout. Avec le téléphone modulaire de deux par jour, nous avons appelé nos cow-boys dans l'étendue pour qu'ils se branchent direct sur le téléphone d'Alix. Ils se sont introduits dans la conversation entre Alix et Raymond comme dans du beurre. Il sortit du paquet un fusil calibre 12 déformé, à peine plus long que son avant-bras. Prit un épais magasin tambour parmi les objets étalés sur le tapis et inséra l'un dans l'autre. Vous avez déjà vu ce genre de joujou ? Ça vient d'Afrique du Sud avant la guerre. Bobby perçut une rage contenue dans sa voix et sa mâchoire crispée. Apparemment, Raymond a été approché par un type plein aux as qui voulait embaucher illico les gothiques dans leur ensemble pour aller dans l'étendue et faire un numéro, une vraie foule. Il lui en fallait tellement qu'il a aussi engagé les décontractes. Puis ça a mal tourné parce qu'Alix est plutôt du style traditionnaliste. Pour lui, un bon décontracte est un décontracte mort. Et encore, après un certain nombre d'heures de torture, vous voyez le genre. Alors, avec une grande diplomatie, Raymond lui a dit d'aller se faire foutre, qu'il s'agissait d'un gros paquet de blé, d'une multinationale et tout. Il ouvrit une boîte d'épaisses cartouches en plastique rouge et entreprit de charger le fusil en les insérant dans le magasin l'une après l'autre. Peut-être que je me gourre, mais je n'arrête pas de voir ces gars des relations publiques de chez Maas Biolab en vidéo ces derniers temps. Il s'est passé un truc très bizarre sur une de leurs propriétés en Arizona. D'après certains, il s'agissait d'une explosion nucléaire, mais d'autres évoquent autre chose. Et ils viennent d'annoncer que le gars qui s'occupait des biologiciels chez eux est mort, dans un accident qui n'a rien à voir, selon eux. Il s'agit de Mitchell, celui qui a inventé le truc en gros. Jusqu'ici, personne d'autre n'a ne serait-ce que prétendu pouvoir construire une biopuce. Alors Lucas et moi pensions depuis le début que c'était Maas qui avait fait ce brise-glace. Il s'agissait bien d'un brise-glace. Mais nous ignorions complètement où le Finlandais et son fournisseur l'avaient trouvé. Mais si on fait le rapprochement, il semble que Maas Biolab essaie peut-être de tous nous buter. Et c'est ici qu'il compte le faire, parce qu'ils nous y ont piégés. « Je ne sais pas, » dit Jammer. « Nous avons un tas d'amis dans cet immeuble. »« Plus maintenant !»
Beauvoir posa le fusil et entreprit de charger un automatique Nambo. La plupart des gens à cet étage et à celui d'en dessous ont été achetés cet après-midi, en liquide, par sac entier. Quelques-uns ont refusé, mais pas assez.
« C'est n'importe quoi !» dit Jackie en prenant le verre de whisky dans la main de Jammer pour le boire.
« Qu'est-ce que nous avons qu'il pourrait vouloir à ce point ?»«
Eh ?» remarqua Bobby. « N'oubliez pas qu'ils ignorent sans doute quels lobes m'ont piqué le brise-glace.
Si ça se trouve, c'est tout ce qu'ils cherchent ?»«
Non, » dit Beauvoir en réintroduisant le magasin dans le Nambo. « Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir que tu ne l'avais pas laissé chez ta mère.
Pas vrai ? Peut-être qu'ils sont allés fouiller là-bas ?
Alors comment savait-il que Lucas ne l'avait pas sur lui, dans Ahmed ?»
demanda Jammer en retournant vers le bar.
« Le Finlandais croyait aussi que quelqu'un avait envoyé ses trois ninjas pour le tuer, » dit Bobby. Et qu'ils avaient prévu des trucs pour le faire parler avant, quand même.
Encore Maas, déclara Beauvoir. Et on se retrouve avec les décontractés, les gothiques.
Nous aurions pu en apprendre plus, mais Alix le Lob est monté sur ses grands chevaux et a refusé de discuter avec Raymond. Il ne voulait pas bosser avec les décontractes qu'il déteste. D'après ce que nos cow-boys ont compris, l'armée est là, dehors, et là pour empêcher les gens comme vous de sortir, et pour empêcher les gens comme moi d'entrer.
Ceux qui ont des flingues, quoi.
Il tendit le Nambu chargé à Jackie.
Tu sais te servir d'une arme ?
Demanda-t-il à Bobby.
Bien sûr,
mentit celui-ci.
Non, dit Jammer, on est assez dans la merde sans lui filer un pistolet, putain.
En toute logique, dit Beauvoir, il faut s'attendre à voir débarquer quelqu'un pour nous. Quelqu'un d'un peu plus professionnel.
Peut-être qu'ils vont se contenter de faire exploser tout l'hyperbazar,
dit Jammer.
Avec tous ces zombies à l'intérieur ?
Non, répliqua Bobby. Il l'aurait déjà fait, sinon.
Les autres se tournèrent vers lui.
Ne sous-estimez pas le gamin, dit Jackie. Il n'a pas tort. Une demi-heure plus tard, Jammer regardait Beauvoir d'un air abattu.
Faut avouer, c'est le plan le plus débile que j'ai entendu depuis un bail.
Ouais, Beauvoir, intervint Bobby. Pourquoi on ne part pas en rampant dans cette conduite de ventilation ? Pour passer par le toit jusqu'à l'immeuble d'à côté,
avec le câble sur lequel tu es arrivé.
Il y a une chiette des contracts sur le toit, expliqua Beauvoir. Certains sont même peut-être assez malins pour avoir trouvé la grille que j'ai ouverte pour descendre ici. J'ai laissé quelques mines à fragmentation derrière moi.
Il eut un sourire sans joie.
Et en plus, l'immeuble d'à côté est plus haut. J'ai dû grimper sur son toit et envoyer le monomole jusqu'à celui-ci. On ne peut pas remonter un filament monomoléculaire en se hissant avec les mains, sauf si l'on tient à perdre des doigts.
« Alors tu comptais sortir d'ici comment ?» demanda Bobby.
« Laisse tomber, Bobby, » dit doucement Jackie. Beauvoir a fait ce qu'il avait à faire. « Maintenant, il est ici avec nous et nous sommes armés. »«
Bobby, » dit Beauvoir, « pourquoi tu ne répètes pas le plan, histoire de s'assurer que tout le monde a bien compris ?»
Bobby eut la désagréable impression que Beauvoir voulait vérifier s'il l'avait bien saisi, mais il s'adossa contre le bar et se lança.
On s'arme et on attend, c'est ça ?
Jammer et moi, on se fait une virée avec sa bécane et nous allons fouiller dans la matrice. Peut-être que nous aurons une idée de ce qu'il se passe.
Je crois que je peux me débrouiller tout seul, dit Jammer.
Ah non, merde ! Bobby s'était redressé. C'est Beauvoir qui l'a dit. Je veux y aller, je veux me brancher. Comment voulez-vous que je progresse à la fin ?
C'est bon, Bobby, dit Jackie. Tu iras.
D'accord. Souffla Bobby en boudant. Donc, tôt ou tard, ceux qui ont engagé les gothiques et les décontractes pour nous piéger ici vont débarquer. Lorsqu'ils arriveront, on s'occupera d'eux. Il faut en garder au moins un en vie. En même temps, on dégage d'ici et les goths et les autres ne s'attendront pas à une telle puissance de feu. Une fois dehors, on file dans la rue en direction de la cité.
C'est un bon résumé, dit Jammer en marchant sur la moquette jusqu'à la porte fermée derrière un rideau.
Je crois qu'il a tout dit.
Il posa le pouce contre une plaque de verrouillage et ouvrit un peu le battant.
Hé, hey, toi ! Cria-t-il.
Pas toi, toi avec le chapeau. Ramène-toi ici.
J'ai un truc à te dire.
Le rayon rouge de l'épaisseur d'un crayon transperça la porte, le rideau, deux doigts de Jammer et vint se poser par-dessus le bar. Une bouteille éclata, son contenu s'évaporant en fumée et en éther vaporisé. Jammer referma le battant, regarda sa main exploser, puis s'assit sur la moquette. L'odeur de sapin de Noël, du gin bouilli, envahit lentement le club. Beauvoir s'empara d'un siphon argenté sur le comptoir et arrosa le rideau en feu d'eau gazeuse, jusqu'à ce que la cartouche de CO2 soit vide et ne projette plus rien.
« Tu as de la chance, Bobby !»
dit Beauvoir en lançant la bouteille par-dessus son épaule. « Parce que l'ami Jammer ne va pas pouvoir tapoter sur un clavier. » Jackie fit claquer sa langue de façon désapprobatrice en s'agenouillant près de la main de Jammer. Bobby aperçut de la chair cautérisée puis détourna aussitôt le regard.